Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce lundi matin est Axel Fachus. Il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère et il est venu spécialement de Brest pour être avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon, merci de me recevoir.
Alors on va parler évidemment de politique et là encore je me répète depuis de nombreux matins au micro de la matinale de Bretagne 5, on va parler de la situation politique et du budget. On parlera aussi bien entendu des municipales et particulièrement à Brest. La situation politique, on pourrait la résumer comment aujourd'hui ?
Bon, très rapidement, une situation qui est compliquée. Compliqué parce que on est dans une situation aujourd'hui où il est difficile à l'Assemblée nationale de trouver des accords, des compromis entre les différentes forces politiques parce qu'il y a des clivages, il y a une tripartition de l'Assemblée nationale aussi qui ressort des élections législatives de juin 2024, enfin de juillet 2024. Et cette situation fait qu'aujourd'hui la situation est assez compliquée pour les élus. Parce qu'ils sont dans une situation qui est inédite pour la Ve République, une absence de majorité absolue pour n'importe quel camp. Et donc aujourd'hui, essayer de conclure un budget avant le début de l'année prochaine et avant la fin des délais précisés par la Constitution.
Avec une grande inquiétude sur ce budget, on entend beaucoup de voix ce matin avec la reprise des discussions à l'Assemblée nationale qui disent voilà, on tiendra pas les délais, en fin de semaine on peut très bien avoir un budget qui ne sera pas discuté, qui sera directement transmis au Sénat et voilà l'ombre des ordonnances qui arrivent sur ce budget en fait qui remettrait les compteurs à zéro. Et justement, ça, c'est une inquiétude que vous pouvez avoir, cette remise à zéro des compteurs.
Ah oui, totalement, parce que une des conditions pour que le Parti Socialiste ne censure pas a priori était l'absence du 49-3. Et le retour des ordonnances et une reprise par le gouvernement qui reprend la main sur le budget de la France. Et donc, il faut à tout prix que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent débattre, discuter et établir ce budget qui est crucial.
Alors justement, vous avez prononcé le mot « motion de censure ». On a vu que LFI avait déjà déposé, ou envisage en tout cas dans les heures qui viennent, de déposer une motion de censure. Là, cette fois-ci, le PS pourrait se joindre à LFI.
Alors, d'abord rappeler la position du Parti Socialiste dans ce contexte, étant un parti de gouvernement et aspirant à exercer des responsabilités et historiquement avoir ce rôle-là dans l'histoire française, le Parti Socialiste a eu pour but, en tout cas dans cette situation de crise, d'essayer de chercher des solutions pour les Françaises et les Français, être utile pour les citoyens. Et donc, ne pas censurer a priori et d'essayer de trouver des compromis qui permettent de sortir le pays de la crise. Pas des postures, mais essayer de trouver des projets qui peuvent rassembler. Donc c'est cette position-là qu'a le Parti Socialiste aujourd'hui dans ce débat budgétaire. Et nous irons jusqu'au bout du débat budgétaire pour faire le choix à la fin de notre position et si nous censurons ou non ce gouvernement.
Il y aura une forme, j'allais dire, d'inachevé, de non abouti, justement, s'il n'y a pas ces discussions au Parlement, là encore, ou si en tout cas elles n'aboutissent pas dans le temps imparti, avec aussi des conséquences, conséquences économiques, conséquences aussi sur les citoyens français qui voudraient bien que le budget soit voté, parce que ça va avoir une incidence sur leur vie quotidienne. Là aussi, il y a une forme de colère, alors je sais pas si on peut parler de colère, mais en tout cas d'irritation de la part du Parti Socialiste, par exemple.
Ah bah, le Parti Socialiste aspire à vouloir exercer les responsabilités, aspire à vouloir être utile. Et c'est vrai que si on ne va pas au bout des discussions budgétaires et que le temps imparti s'arrête et il n'y a pas de vote ou le texte est rejeté à la fin et nous avons des ordonnances, bah c'est vrai qu'il y aura une certaine frustration parce que le but est de trouver des solutions, des compromis. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile à tenir, c'est pas facile de sortir un pays de la crise et tout le monde doit exercer en responsabilité. Et quand on est élu de la République, on doit aujourd'hui prendre ses responsabilités et se dire dans un moment de crise, eh ben, on va aller chercher ses compromis, ses solutions pour les Françaises et les Français sans soutien au gouvernement, mais évidemment on a essayé d'arracher des victoires.
Justement, il y a la réforme des retraites. C'est un petit peu la ligne rouge hein, au Parti Socialiste. Réforme qui était un petit peu mise sous le coude, hein, si vous me permettez ce côté un petit peu trivial, mais qui peut revenir, puisque le Sénat envisage, lui, de remettre, j'allais dire, la réforme des retraites sous la lumière des projecteurs. Là aussi, c'est une autre bataille qui va s'engager.
Bah, totalement. C'était la condition sine qua non pour ne pas censurer a priori. C'est un premier pas que l'Assemblée nationale a franchi en votant la suspension de la réforme des retraites de 2023. Il faut continuer de batailler. Et j'ai entendu Gérard Larcher comme vous faisait le sous-entendu. Moi, je trouve que dans ce contexte, on a imposé aux Françaises et aux Français une réforme des retraites par 49-3, sans vote. C'est des solutions. On tape sur les plus faibles. Ça s'appliquait qu'aux carrières longues. C'est-à-dire que ceux qui commençaient tôt se retrouvaient à avoir un âge de départ plus long, pas ceux qui sont plutôt privilégiés, et c'était un problème. Et donc c'est pour ça que le Parti Socialiste avait dit on censurera s'il n'y a pas cette suspension des réformes des retraites. Donc nous avons fait un premier pas à l'Assemblée nationale, mais il faut qu'on continue ce combat.
Avec des économies à faire, on a un budget, il est ce qu'il est, avec un grand déficit pour la France, des économies à faire. Alors on le voit, le gouvernement cherche à faire des économies un petit peu partout, sur les agences, en parlant de nouveaux impôts, éventuellement de nouvelles taxes, ce qui fait un petit peu grincer les dents à droite. Et puis il y a les fonds de tiroir, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que là aussi, on a l'impression d'un budget un peu en péril? On essaie d'aller chercher un peu partout ce qui pourrait créer de l'économie sans avoir de véritables mesures. Est-ce que c'est ce sentiment-là aussi qu'il y a à gauche au Parti Socialiste ?
Ben, d'abord, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est bien parce qu'Emmanuel Macron a creusé la dette depuis de nombreuses années, depuis près de 10 ans, plus de 1000 milliards de dettes sous ses quinquennats, enfin ses deux quinquennats et celui qui va bientôt se terminer. C'est une situation qui est dramatique pour la France et qui s'est surtout expliquée par un manque de recettes dans le budget. Et dans les différents budgets Macron étaient en fait des cadeaux pour les plus privilégiés et donc un manque de recettes pour la France qui fait creuser le déficit. Et quand on ne va pas chercher là où il y a de l'argent, là où on essaye d'avoir un impôt qui est juste, des taxes qui sont justes parce que tout le monde ne peut pas payer le prix de la dette, mais certains peuvent contribuer plus que d'autres, c'est ça la justice. Et ben, c'est ce qu'il faut faire dans tous les budgets suivants, essayer de rétablir cette situation.
Et il faut mettre à contribution les grandes entreprises. On a entendu hein, les grands patrons français s'émouvoir hein, de devoir peut-être avoir de nouvelles taxes. On a entendu aussi parler de cette fameuse taxe Zucman, du nom de Gabriel Zucman, l'économiste. Taxe qui a été allégée, la fameuse taxe Zucman Light, si vous me permettez cet anglicisme, qui n'a pas été votée, en tout cas adoptée par l'Assemblée nationale. Là aussi, il faut remettre l'ouvrage sur le métier.
Totalement, parce que dans ce contexte de crise, dans ce contexte d'une grave dette budgétaire, et il faut le dire, cette dette est grave, ce déficit est grave parce qu'il aura des conséquences, mais le Parti Socialiste ne se défile pas face à ses responsabilités. Et dans ce contexte, je ne comprends pas qu'on puisse concevoir de faire payer les plus pauvres de ce pays, les plus fragiles, qui gagnent moins de 1200 euros, moins de 2000 euros par mois. On veut les faire contribuer de façon excessive parfois, ou alors on ne met aucune taxe. Et je le rappelle, c'était 2% sur des personnes qui touchent plus de 100 millions d'euros. C'était quand même pas excessif, ce n'était pas confiscatoire. Il faut sortir de ces discours de posture et trouver des solutions pour un juste équilibre de ce budget.
Il y a eu la taxe aussi évoquée sur les héritages, les gros héritages évidemment. Là aussi, on touche à, j'allais dire, un petit peu à quelque chose de très particulier. L'héritage en France, c'est quelque chose. Là aussi, bonne ou mauvaise idée?
Mais je crois que ces solutions-là, il faut les mettre sur la table. Il y a certains endroits où il y a de l'argent et il faut se poser les bonnes questions dans cette situation de crise. Il faut que chacun puisse être conscient de ses enjeux et qu'on puisse discuter de ces sujets-là tranquillement et dans le débat à l'Assemblée nationale, au Sénat, ce débat parlementaire qui est essentiel pour trouver des solutions.
Alors on a entendu beaucoup de brouhaha dans l'Assemblée ces derniers temps, ces dernières semaines. On entend beaucoup le Rassemblement national hein, qui s'exprime, mais on entend aussi beaucoup LFI à l'autre côté de l'échiquier politique. Par contre, on sent évidemment qu'il y a une rupture entre et les filles et le Parti Socialiste. Le divorce est consommé aujourd'hui ?
Ah mais il n'y a aucun accord avec la France Insoumise aujourd'hui avec le Parti Socialiste. Nous ne sommes pas alliés. C'est très clair sur ce point. Il y a une dérive de la part de la France Insoumise depuis de nombreux mois qui est insupportable et le Parti Socialiste continuera sa route avec ses alliés écologistes, avec ses alliés communistes, les autres partis qui gravitent autour aussi, et nous trouverons des solutions et nous proposerons une alternative pour les prochaines échéances.
Alors il y a urgence à gauche, parce qu'on voit quand même, je faisais référence au Rassemblement National, ça va nous amener donc tout naturellement vers les municipales, mais on le voit, le Rassemblement National se rajeunit, se féminise, a une volonté de devenir un parti de gouvernement, on l'aura compris. C'est ça l'enjeu demain pour le Parti Socialiste, c'est de créer le rempart.
Je pense qu'il faut qu'on soit le parti de l'avenir, et ça se construit dès maintenant. Il faut gagner ces municipales, il faut faire des scores dans toutes les villes où nous avons des candidats et des candidates. Il faut construire cette alliance avec nos alliés à gauche et permettre d'être le parti de l'avenir pour proposer une alternative au projet de la haine, au projet de restrictions budgétaires massives qui est proposé par la droite. Et je pense que nous serons en position demain de pouvoir gagner.
Comment trouver les mots ? Comment avoir le langage pour parler auprès de 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, qui ne sont peut-être pas forcément des adhérents des idées du Rassemblement National, mais qui veulent un changement ? Comment les convaincre finalement, ces Français ?
Bon, d'abord, rappeler que ces électeurs, parfois, c'est un vote parce qu'ils ont une colère, ils ont ce sentiment d'injustice, et la gauche doit répondre à ces colères et ces injustices. Et c'est par le projet, par les propositions que nous ferons, que nous arriverons à convaincre ces personnes-là. Elles votent pas Rassemblement National, parfois, parfois c'est pas des anciens, c'est pas des anciens FN, c'est des gens qui votent RN depuis peu, parce qu'ils ont vraiment un sentiment de colère. Et il faut entendre cette colère et nous, à gauche, proposer, permettre de faire comprendre que ces discours que le Rassemblement National a depuis de nombreuses années, ces discours de haine, ces discours de rejet de l'autre, et c'est pas des solutions. La solution est trop facile. Et donc, à nous de vulgariser aussi nos propositions pour permettre demain de leur proposer un vrai projet alternatif.
Alors ça nous amène, je vous le disais, Axel Fachus, au municipal, et au municipal en particulier à Brest. On fait un focus ce matin sur Brest, les auditeurs l'auront compris, vous êtes brestois, vous venez de Brest. On voit justement là aussi une forme d'union des droites, en tout cas, qui se met en place à Brest avec une liste qui pourrait peut-être unir très largement la droite jusqu'au Rassemblement National, quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est redoutable, cette alliance à droite, si elle a lieu ?
Bon, d'abord, rappeler dans le contexte dans lequel cette liste se crée, c'est une liste qui a commencé par un local, soi-disant il voulait réfléchir à la place de Brest, mais ce n'était pas de l'ambition politique, c'était seulement pour écouter les habitants. Ils ont sorti un document aussi ces derniers mois, et puis finalement, la personne qui préside ce mouvement-là se retrouve tête de liste d'une liste à droite. Ça m'étonne quand même beaucoup pour un projet qui dit entendre les citoyens, en tout cas venir après être tête de liste et finalement faire ses propres propositions sans forcément entendre ce qui est dit par la population brestoise. C'est très politicien comme méthode, c'est pas ce que je conçois en tout cas dans le combat politique. C'est un choix qu'ils ont fait. Maintenant, je pense que la gauche, il faudra qu'on soit l'alternative crédible, la suite de ces différentes années, depuis 37 ans maintenant, que la gauche est aux responsabilités à Brest. Il faudra poursuivre ce combat-là.
Est-ce qu'il n'y a pas une usure de pouvoir, justement, voilà, je me fais un peu provocant, Axel Fachus, mais François Cuillandre va se présenter, il a annoncé pour effectuer un cinquième mandat. Est-ce que c'est pas le mandat de trop ?
Bon, d'abord, j'entends les critiques qui sont faites par certains. Maintenant, il faut rappeler que nous arrivons quand même devant les municipales dans une situation de crise totale, de crise qui est inédite. Il y a une crise internationale, il y a une crise nationale, et au niveau local, il y a des drames tous les jours, partout, parce que l'État, parfois, ne remplit pas ses fonctions. Et donc, nous sommes dans une situation de crise. Face à ça, je pense qu'il faut une certaine stabilité, une certaine rigueur dans l'application de nos politiques publiques. Il ne faut pas vouloir à chaque fois renverser la table. Et je pense que vraiment, dans ces municipales à Brest, qui est quand même la plus grande ville du département dans le Finistère, il faudra de la stabilité et permettre quand même de l'apaisement dans cette ville, comme c'est le cas depuis 37 ans, permettre que ça, elle vive bien, sans renverser la table, sans creuser la dette, comme ce qui est proposé par la droite, ce qui est assez étonnant, hein, parce que la droite crie toujours à la restriction budgétaire dans tous les budgets de France. Par contre, à Brest, eux, ce qu'ils proposent, c'est un creusement de la dette, parce qu'ils proposent des budgets qui seront jamais tenus.
Il y a un enjeu à Brest, l'enjeu politique, c'est aussi l'enjeu de sécurité. On va y revenir, il y a eu ce jeune qui a été tué à Brest, voilà, donc qui a suscité l'émoi. On a vu d'ailleurs François Cuillande s'exprimer, et les autres partis politiques aussi s'exprimer autour de cette mort violente. Brest est aujourd'hui gangrénée, comme d'autres villes de l'Ouest et plus largement françaises. Il ne s'agit pas de dire c'est pire à Brest qu'ailleurs, mais voilà, le trafic de drogue est là, une forme d'insécurité liée à ce trafic est là aujourd'hui. On reproche à François Cuillande de ne pas faire assez. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces critiques?
Bon, d'abord, sur ce drame, évidemment, un mot pour la famille de la victime, un mot pour les proches qui s'imposent dans ce contexte. Sur le sujet de la sécurité, rappelez quand même que cela fait des années qu'on demande au maire de remplir les fonctions qui sont celles de l'État. La sécurité est une obligation étatique. C'est à l'État d'assurer la sécurité sur tout le territoire français pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les territoires. Et on demande, dans ce contexte, parce que Nicolas Sarkozy a aussi, il faut le rappeler, supprimé près de 10 000 postes de policiers en France, et ça fait plus d'une centaine de postes à Brest, dans ce contexte, on ne peut pas demander au maire de remplacer l'État. Et François Cuillande, c'est bien ce qu'il a eu comme réaction face à ce drame, c'est qu'il demande à l'État de prendre ses responsabilités et arrêter de se défiler dans ces situations-là, dans la situation brestoise. Il nous faut plus de policiers, c'est une certitude. Sur la sécurité, je crois que le choix qui a été fait depuis de nombreuses années est un choix qui est bon, c'est-à-dire que le maire agit pour la tranquillité avec la brigade de tranquillité urbaine, il agit sur la prévention avec le financement des médiateurs, et ça c'est du concret, et ça on agit sur la prévention et la tranquillité, mais ça peut pas être au maire de remplir les fonctions de police nationale. Ça, c'est l'enjeu du narcotrafic, c'est pas le maire qui va les régler.
Justement, il faut plus de policiers, plus de moyens, plus d'enquêteurs aussi, hein, ça fait partie, j'allais dire, du schéma. Mais comment faire, puisque l'État n'a plus de moyens, on l'aura compris, ou très peu de moyens, comment faire pour arriver à, d'un côté, conserver une forme de tranquillité et à la fois faire avec les moyens du bord, si vous me permettez?
Bah d'abord, il faut des budgets, parce que nous, on a proposé aussi des solutions au niveau national, le Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'il faut des propositions de financement claires de nos budgets pour ensuite financer nos services publics, qui sont essentiels, comme celui-là. Et c'est comme ça qu'on y arrivera.
Là encore, les services publics, un des maillons essentiels de la chaîne, on le voit aujourd'hui, les services publics sont à la peine dans bien des domaines, y compris celui de la sécurité, mais d'autres aussi. Là aussi, comment trouver les financements pour pouvoir maintenir ces services publics et là aussi sur les territoires?
Bon, d'abord, c'est ce qu'on a proposé. On a proposé des financements par les hauts patrimoines. On a proposé des augmentations sur les cotisations de certains. C'est des propositions qui sont valables. Il y a un tas de propositions dans le contre-budget du Parti Socialiste qu'on avait déjà évoqué ces derniers mois. C'est ces propositions-là qui vont permettre demain de pouvoir financer les services publics. Parce que si demain, on restreint tout les budgets de l'État et on baisse les recettes, et on ne pourra plus financer ces services publics-là qui sont essentiels pour la population.
Est-ce qu'il faut une forme de décentralisation? Je pose souvent la question à ce micro, une forme de décentralisation, donner peut-être plus de moyens aux régions, on pense à la région Bretagne, pour justement permettre d'irriguer les territoires et d'avoir des politiques peut-être plus ciblées, alors dans tous les domaines, pas seulement la sécurité.
D'abord, sur la décentralisation, je pense que c'est essentiel parce que les maires, les élus locaux, le président de région notamment qui parle très bien de ces sujets-là et qui les connaît par cœur, ces élus-là sont au plus près des citoyens. Ils connaissent par cœur leur territoire et c'est bien parce qu'ils sont au plus près qu'ils peuvent agir plus concrètement. Et dans l'application, parfois, de certaines politiques publiques, ce serait essentiel que ça soit un peu moins parisien. Et dans ce cas-là, il faut donner plus de compétences aux collectivités territoriales, mais c'est pas plus de compétences qu'il faut aussi, c'est plus de financement. C'est-à-dire qu'on peut pas demain transférer la compétence sans leur donner le financement qui va avec. Les deux doivent aller ensemble.
Alors, d'un point de vue un peu plus politique, pour revenir à ces municipales qui se dessinent à Brest, là aussi, les alliances vont être nécessaires à gauche. Est-ce qu'une alliance est possible, par exemple, avec les Verts, avec le PCF ? Est-ce qu'il y a déjà des tractations en cours ?
D'abord, nous avons fait le bilan de mandat, qui était une action essentielle, qui permettait de rendre compte aux citoyens de l'action qui avait été menée ces 6 dernières années. Rappeler que 95% du programme municipal qui avait été proposé en 2020 devant les électeurs a été réalisé. C'est quand même un score, un chiffre qui est impressionnant, parce que dans une situation de crise, la pandémie, les guerres, c'est quand même un programme qui a été tenu et des promesses tenues. Ensuite, donc ce bilan de mandat a été fait avec toute la majorité plurielle, la majorité municipale. Ensuite, pour évoluer vers ces élections municipales, il faudra des accords à gauche. Nous avons déjà des accords avec l'UDB, d'autres partis, mais il faut évidemment qu'on trouve avec cette gauche qui veut bien travailler, qui est prête à exercer les responsabilités, qui le fait déjà, et ben évidemment, il faudra qu'on essaye de continuer tous ensemble.
Là encore, LFI ne sera pas de la partie, si j'ose dire.
C'est historique à Brest. LFI n'a jamais été avec nous dans les alliances, et ça ne le sera toujours pas. Il y a des divergences profondes. C'est un parti avec lequel nous ne sommes pas alliés, et nous ne serons pas alliés. Donc, évidemment, nous serons sans LFI aux élections municipales.
Est-ce que le Rassemblement National peut marquer des points à Brest ? Parce qu'on voit qu'un peu partout, je le disais tout à l'heure, le Rassemblement National se présente pour gagner des villes, pour alors peut-être pas des grandes villes, mais voilà, il fait son chemin. Est-ce que c'est une source d'inquiétude aussi ? En tout cas, vous y êtes attentif ?
Il faut être attentif totalement, parce que c'est quand même inquiétant de voir des partis de haine s'implanter dans nos villes, et on le voit ces derniers mois, il y a eu des attaques d'ultra-droite à Brest, c'était pas vu depuis quand même de nombreuses années. C'est choquant, et pour nous les jeunes c'est encore plus choquant. On s'engage pas en politique, et enfin ça renforce notre engagement politique, mais on s'engage pas en politique pour voir des violences telles face à des militants.
Et il y a une inquiétude là aussi face à ces violences qui ressurgissent quelque part.
Ah bah, totalement, et c'est pour ça qu'il faudra être attentif dans les prochaines municipales à ce qu'ils font. Faut rappeler quand même ce qu'ils proposent. À Brest, ils instrumentalisent des drames, des victimes pour leur projet politique. C'est quand même dramatique dans la situation dans laquelle nous vivons. Quand on veut exercer des responsabilités, on l'exerce avec responsabilité, recul, et on va pas instrumentaliser la vie des victimes comme ce qui est fait par l'extrême droite à Brest.
Alors, le Rassemblement National, plus largement, l'extrême droite, aujourd'hui, a fait de son cheval de bataille, en tout cas la sécurité, on en parle à l'instant, mais aussi les migrations. On sait que Brest est une terre d'accueil. Comment arriver aujourd'hui à faire en sorte que les forces de gauche, je suis large volontairement, puissent s'emparer de cette situation et puissent s'emparer de la question de l'immigration ?
Pas avoir de malaise en parlant de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il faut, ne pas avoir peur de parler de ces sujets-là, de parler de ce qu'on propose. On ne propose pas de rejeter les gens, on propose une insertion, on propose que les services publics prennent en charge, que les services publics insèrent, permettent qu'on s'épanouisse dans la société française, qu'on puisse être intégré, qu'on puisse trouver de l'emploi, qu'on puisse s'épanouir. Il y a de nombreux médecins qui viennent d'ailleurs, qui travaillent en France, il faut les remercier. Eh ben, je ne comprends pas les politiques de rejet, c'est totalement infondé, c'est une solution facile.
Là aussi, il faut donner les moyens aux associations, par exemple, qui s'occupent de ces populations, et il faut aussi avoir des schémas précis pour l'intégration.
Évidemment, parce qu'il ne faut pas aller vers la précarité, parce que la précarité pose tant de problèmes sinon. Et il faut permettre justement, quand on arrive en France, eh ben on ait tous les moyens possibles pour permettre l'intégration et l'insertion qui soit la meilleure possible. Parce que c'est une chance en France de pouvoir avoir des gens qui viennent d'ailleurs et pouvoir faire une société avec tout le monde.
Avec un contexte européen qui est ce qu'il est, là aussi, est-ce qu'il faut que ces questions d'immigration soient aussi une réflexion à l'échelle européenne, une réflexion peut-être plus apaisée ?
Totalement, parce que les flux migratoires, ils sont d'une échelle qui va être de plus en plus grande par exemple au réchauffement climatique, et pour une coopération entre les pays pour justement permettre cette insertion dans la société, il faut justement qu'on agisse en coopération au niveau de l'Union européenne. C'est essentiel, parce que si tout le monde a des attitudes nombrilistes et se referme, eh ben on risque pas de permettre une coopération entre les différents pays.
Un dernier mot, il nous reste trois petites minutes, Axel Fachus. Je reviens un petit peu à la politique nationale. Après les municipales, si elles sont repoussées pour cause de dissolution, ce qui peut encore arriver, il y aura la présidentielle. On a vu là aussi que les états-majors politiques étaient déjà dans les starting blocks, si vous me permettez cette référence au sport. Là aussi, le Parti Socialiste va devoir relever un défi. Il a gouverné le Parti Socialiste, il a été durement sanctionné, comme d'autres partis, on pense à LR, et là on voit aussi les partis situés sur l'autre partie de l'échiquier, que ce soit LFI d'un côté ou le RN de l'autre, voire Reconquête, prendre une forme d'ascendance. Est-ce qu'il va falloir là aussi retravailler sur le débat de fond finalement?
Oui, parce que le débat de la politique spectacle et aujourd'hui le contexte font qu'on parle moins de projets et on parle beaucoup plus de personnes personnes qui vont incarner la France, de charisme, et c'est pas ça. Demain, il faut un projet alternatif aux projets qui sont proposés, qui proposent la haine, le rejet de l'autre, je le redis, et il faut que la gauche qui soit responsable avec les écologistes, les communistes, les socialistes, on travaille pour un projet alternatif et que ce projet gagne en 2027.
Alors, pour gagner, il faut aussi un peu de compromis, et je terminerai là-dessus. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, le compromis est dur à trouver. On peut discuter aujourd'hui au Parti socialiste avec la droite républicaine, avec le centre. Il y a des points communs qui peuvent surgir.
Je dirais pas des points communs. On a quand même de nombreuses divergences. Nous ne risquons pas de faire des accords avec ces partis-là pour des élections. Ça ne risque pas.
Non, je parlais plus de
sur les projets. Sur les projets, ben, évidemment, si nous proposons quelque chose à l'Assemblée nationale, les députés qui pensent que c'est un projet qui est bon pour la France, qu'ils le votent. Et ça, nous ne sommes pas responsables des votes de chacun. Il existe toujours des alliances ou ça s'appelle du compromis. Et c'est ça la vie parlementaire, et c'est ça un régime parlementaire. Ça évite justement la présidentialisation du régime.
Avec ce fameux risque peut-être de dissolution, ça rajouterait une forme de chaos aujourd'hui dans un pays qui est quand même très fracturé. Vous en avez conscience de cela, vous le craignez quelque part?
Mais je pense qu'il ne faut pas attendre tout de la présidentielle non plus, parce que dans une crise, si on veut que le régime soit parlementaire, que les élus qui sont élus par les citoyens puissent discuter des projets et débattre, il faut s'en saisir maintenant du débat et prendre le débat à cœur et qu'il aille jusqu'au bout à chaque fois des discussions. Parce que si à chaque fois on attend que la présidentielle règle le problème, on présidentialise le régime, et donc on attendra une personne charismatique à chaque fois qui vient sauver la France, entre guillemets, parce que ça n'a jamais marché. Il faut donc des projets alternatifs et qu'on parle du fond.
Voilà, nous en parlions ce matin avec vous, Axel Fachus, animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et vous reviendrez évidemment au micro de la matinale. Je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.